le tableau de la dernière fois, Daniel chapitre 2, qui donne le programme depuis Nebuchadnezzar jusqu'à l'éternité, à travers tout le plan prophétique. Donc tout ce qui se passe de manière prophétique, de manière historique et future et biblique, doit s'accorder avec le plan. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit pas. Il va faire comme il a promis. Donc, quand les Juifs, comme Jean-Baptiste et Jésus, ont eu tous les deux le même message, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ils pensaient à quoi? Pensez à ça. C'était le message prophétique. Il pensait que le Christ allait régner sur la terre à partir de Jérusalem. Okay? Donc ça ne change pas. Pourtant, en dépit du message de Jean-Baptiste et de Jésus, la nation d'Israël a rejeté Jésus. Ils ont rejeté le Messie. On l'a crucifié. On suppose peut-être que ça surprit Dieu, que Dieu ne savait pas que les Juifs allaient rejeter le Christ, que les Juifs allaient crucifier Jésus. Ils allaient demander que les Romains le mettent à mort. Mais non, Dieu savait ça parce qu'il y a tout un programme prophétique à propos du Messie qui devait mourir. Pourquoi il est mort? Pour nos péchés. Okay? Donc il est venu une première fois. Il s'est vraiment présenté aux Juifs. Dieu savait qu'ils allaient le rejeter, mais il savait aussi que c'était comme ça que le Christ devait venir afin d'être crucifié. Donc, on a dans Romains chapitre 11, en fait c'est 9, 10 et 11, mais il y a une discussion concernant le peuple d'Israël, et nous n'allons pas entrer là-dedans. Mais dans Romains chapitre 11, à partir de verset 10 au 15, après verset 20, 23, 25, 26, 27, il y a tout un discours du fait que Dieu n'a pas oublié son peuple, mais que son peuple, par l'incrédulité, est éloigné, et les païens qui auparavant étaient incrédules ont été greffés sur l'arbre. Mais quand les païens vont, eux, se trouver éloignés de la foi dans l'incrédulité, eh bien, les Juifs vont se tourner par la foi en Jésus-Christ pour être regreffés dans l'arbre. Donc, c'est très important ce principe dans Romains chapitre 11, parce que ça montre que Dieu n'a pas fini son programme. Il va continuer le programme qu'il avait eu avant la création, qu'il a prophétisé à travers l'Ancien Testament, qu'il a donné dans Daniel 2, qu'il a donné aussi dans les textes que nous allons voir. Donc, cela ne nous étonne pas quand on regarde dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, verset 5 à 8. Actes chapitre 1, verset 5 à 8. Que Jésus parle du Saint-Esprit qui va être envoyé. Au verset 5, on va lire au verset 4. Car il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alors, où va être le siège siège mondial du Christ pour le millénium, pour le royaume de Christ? C'est Jérusalem. Il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis. Donc, dans leur tête, qu'est-ce que Dieu a promis? Tout ce que Dieu a promis va se faire. Okay? C'est ça, ils pensent au royaume. Et donc, Jésus a dit tout ce que le Père a promis, mais il n'a pas arrêté avec cette phrase-là. Ce que je vous ai annoncé. Donc, c'est au-delà de ce qu'ils avaient pensé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il se pose la question. Alors, les apôtres réunis, donc tous, demandèrent, Seigneur, quand tu vas baptiser du Saint-Esprit, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Ils ont toujours la même chose dans l'esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, eh bien, c'est une façon pour dire qu'il va démarrer le royaume. Eh bien, Jésus a dit non. Il lui dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarité et juste aux extrémités de la terre. Donc, est-ce le Saint-Esprit démarre le royaume? Non. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il démarre le programme d'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce n'est pas du tout mentionné dans ce programme-là de Daniel. Ça ne fait pas partie de ce qu'il a dit. Ça ne le contredit pas, mais ce n'est pas vu dans ce qu'on voit là. Par contre, on a une autre prophétie dans Daniel, et c'est dans le chapitre 9. Et c'est là qu'on va voir maintenant la prophétie de Daniel, dans le Daniel chapitre 9. Dans ma Bible, c'est la page 890. Donc, nous allons lire Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Donc, on est au milieu du paragraphe. Et ça, c'est la prophétie concernant les 70 semaines. À comprendre, quand vous voyez le mot semaine, c'est nous qui mettons le mot semaine. Le mot, c'est 7. 77. 77 multiplié par 7. Jour, année, milliard d'années, n'importe, mais c'est 7. C'est pas les semaines comme nous pensons, une semaine de 7 jours, c'est 7 quelque chose. Donc, à partir du verset 24, je le cherche. Voilà. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc voilà, on a 70 semaines. 77. Et donc, les commentateurs s'accordent que c'est les années qui sont en vue ici. 70 fois 7 années. Parce que si tu dis 77, tu vas comprendre rien du tout. Donc, on utilise le mot semaine pour te donner une idée de quelque chose. Mais c'est comme ça. Oui, mais il ne dit pas dans le mot. Donc, c'est à le traducteur de l'interpréter. Donc, c'est comme ça, mais je pense que dans toutes les langues, on utilise le mot semaine, weeks, etc. C'est comme ça, c'est l'habitude. Mais, donc, ça laisse pour une interprétation quand même. On pourrait avoir une différence d'opinion. Mais quasiment tous les interprètes sont d'accord qu'on parle des semaines d'années. Des périodes d'années de 7 semaines. OK? Ça va? Il n'y a pas d'autre choix.
Des périodes d'années de 7 semaines. cette année
70 fois. C'est une période de 7 ans. Une période de 7 ans. 70 fois. Donc, il le divise en 7 fois 7, qui fait 49. Après, il fait 62. Donc, ça fait je ne sais pas combien. Et après, il fait 1. Ça fait 7. OK? Donc, le 62 plus le 60... Les 6 plus le 62, ça fait 69 ans. OK? Donc, pendant cette période de 70 ans, on a une globalité de l'histoire d'Israël à part de Néhémie jusqu'au retour de Jésus pour le second événement. OK? Donc, c'est les deux côtés. Il a en vue ici, à partir du moment qu'il y a le décret pour rebâtir la ville, donc il y a d'autres décrets pour construire le temple. OK? Plusieurs fois, il y a des questions de reconstruire le temple, parce qu'ils ont commencé le temple, ils ont abandonné, ils ont recommencé, je ne sais pas, ils ont les paumes, ils ont recommencé. Mais il y a une fois qu'il y a la commande de construire la ville, et ça c'est dans Néhémie chapitre 2 à partir du verset 1, où le roi de Perse, Artaxerxès, donc les historiens disent Artaxerxès Longimanus, eh bien il commande que le mur soit bâti. Donc si on prend les 6 plus 62 multiplié par 7, on a, où est mon chiffre que j'ai écrit quelque part, je ne trouve plus. Alors, ça fait, si je regarde le bon chiffre, ça fait 483 ans. Alors, quelqu'un avec un calculateur peut me corriger si je me suis trompé là. Donc, quand on prend la date de cette déclaration en 445 avant Jésus-Christ et on ajoute les années de ces 7 années, eh bien, ça arrive à l'année 32. Donc, tous de cette 69, premières 62 années devaient être accomplis dans, entre 445 et l'année 32. OK? Et après, le Christ devait être crucifié. Après. OK? Donc, les 7 fois 7, c'est le temps de la rétablissement, la reconstruction de la ville. Et le 62... sont le temps qui est arrivé jusqu'à Matthieu chapitre 21, verset 7, où Jésus se présente comme le roi, l'entrée triomphale. Et donc, tous les 69 fois 7 années sont compris dans cette période-là. Et le texte dit « après ». Donc, après les 6 plus après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, ça veut dire qu'il sera tué. OK? Nous savons qu'il était crucifié. Il n'aura pas de successeur. Donc, il n'était pas marié, il n'a pas un enfant, c'est coupé. OK? Donc, à noter, après les 62 semaines, donc c'est le verset 26, le Messie sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. OK, donc cette partie-là, donc on a Tite, le général romain qui est venu dans l'année 70, donc c'est après l'année 32, qu'il a détruit le temple, il a détruit la ville de Jérusalem. Encore un peu plus loin, il a, pas lui-même, mais les Romains ont détruit tout le pays d'Israël. Et sa fin arrivera comme une inondation. Donc, je ne vais pas interpréter la phrase, je ne sais pas exactement ce qu'on veut dire là. Mais le point, c'est que la crucifixion, la destruction de Jérusalem en 70 et toute l'œuvre du Saint-Esprit pour l'évangélisation du monde ont lieu après les 69 périodes de cette année. Okay? Après la crucifixion, après la résurrection, à partir donc de Actes chapitre 1, etc., eh bien, on a toutes ces choses qui vont arriver. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on a vu ici. Est-ce que c'est la guerre romaine, simplement, ou est-ce qu'on revient ici pour s'accorder avec l'image? Parce que d'ici jusqu'au petit orteil, c'est Rome. OK? Donc, Rome a disparu. Donc, on va nous dire vers l'année 400 quelque chose, de manière politique dans l'Occident. Rome est disparu, donc Occident. Rome est disparu de manière politique dans l'Orient, 1460-61, parce que l'Empire romain oriental, donc l'Église orthodoxe, a continué jusqu'à ce que les Turcs ont bouleversé, ils ont conquis donc Istanbul, enfin Constantinople, donc Istanbul maintenant. Okay? Donc Rome a continué de manière politique jusqu'au XVe siècle. Mais Rome est toujours dans la prophétie de Daniel chapitre 2, et donc on peut être un peu ésotérique et tout ça si on veut, mais l'idée c'est que tous les pays du monde, à mon avis, je devine, hein, ils ont un Sénat, ils ont un Congrès, ils ont toutes les formes politiques, y compris l'Église catholique romaine, qui prétend être toujours Rome. Si vous comprenez, donc il y a toujours la représentation de Rome dans notre époque, mais pas dans le sens des Romains qui ont détruit Jérusalem dans l'année 70, mais toujours il y a une prolongation de cette société, nous sommes toujours là-dedans. Vous avez peut-être une question là-dessous.
Donc on est dans les pieds.
Oui.
Nous sommes à l'époque des pieds.
Donc Rome impériale s'était divisé en Orient et Occident, c'était à l'époque de Constantin, donc Constantin qui a créé l'Église catholique romaine, et donc les deux cheminaient ensemble jusqu'à l'année à peu près 1000. Après, ils se sont divisés pour être l'Occident, qui était carrément sous l'Église catholique romaine dominée, et l'Occident, c'était toujours l'empereur. Donc, dans l'Occident, il y avait les empereurs, les petits empereurs, comme Constantin, comme Charlemagne, etc. Okay? Il était l'empereur du Saint-Empire romain, d'accord? Et ça s'était envoyé, transmis jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Okay, ou le premier, je ne sais plus quelle guerre. Okay? Mais la partie occidentale, c'est plutôt religieux. Tandis que la partie orientale, c'était toujours politique. Donc, par exemple, Charlemagne devait discuter avec l'empereur ou l'empératrice en Orient quand il voulait faire certaines choses. Parce que politiquement, il y avait quand même un lien entre les deux côtés à travers l'histoire jusqu'à ce qu'il y ait. Donc Charlemagne était en 800 et la rupture entre les deux côtés c'est en 1000, plus ou moins 1000. Ok, ça va? Donc nous on est plus avancé, on dirait on est dans les pieds, peut-être au début des orteils, on ne sait pas exactement. Donc quand on parle dans les conférences prophétiques, on va suggérer, donc moi je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas et je ne veux pas m'avancer trop. Mais on pense que voilà, l'Europe, avec toutes ces 28, je ne sais pas combien de orteils, et cette alliance finale. D'accord? Mais en fait, ce n'est pas final parce qu'on n'est pas encore là. Mais l'idée, c'est quand même là. On a des alliances très politiques, mais qui ne sont pas trop efficaces, donc pas trop bien, mais quand même, il y a les dons, mais beaucoup de souplesse, ça ne marche pas trop bien. Et de toute façon, les alliances finales concernent la tribulation. Donc nous, on ne sera jamais là. Okay? Mais c'est dans l'avenir. Okay? Autre question? Non, moi je vais vous dire, regardez, mes doigts superposent là. Okay? Je dis que la phrase « jusqu'au terme de la guerre », donc j'ai dit « bon, je ne vais pas trop m'avancer pour interpréter ça ». Mais je vais repiquer sur cette phrase parce que je pense que d'une manière, du fait qu'on est toujours Rome et qu'on a un antichrist qui vient. Donc on a un peu, on va tirer sur cette chose-là. Donc il y avait Tite qui a détruit Jérusalem dans l'année 70, d'accord? Et ça c'est fini. Et puis on a un autre qui viendra. Donc dans les années, dans le deuxième siècle avant Jésus, il y avait quelqu'un qui s'appelait Antiochus Epiphane. Comment on dit?
Epiphanes, je crois.
Oui, quelque chose comme ça. Mais en français, on le dit un peu différemment. Mais c'est le même, globalement, c'est la même chose. Et lui a fait un peu de ce qu'on voit ici. Mais pas tout ce qui est dit ici. OK? Et donc, on tire, on voit que voilà, il y a quelqu'un comme ça, un antichrist. Et Jean va lui dire, il y a beaucoup d'antichrists qui sont entrés dans le monde. Mais on va tirer ça et on va recommencer donc avec cette phrase-là. Il y a arrêté, les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il maintenant, c'est il dans les alliances finales. OK? Donc on a un vu ici avec le il, c'est l'antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc, c'est la dernière semaine. C'est la 70e semaine. Il n'y a pas d'autre mention de une semaine. Hein, parce qu'on a 6, on a 62 et on a plus 1. Donc, c'est ici, le plus 1. Donc, il y a le Messie qui a été retranché. Et après, il y a plein de choses qui arrivent. Et puis, il. C'est il. Donc, à travers l'histoire, on ne trouve aucun il qui pourrait correspondre à cette période de cette année. Donc, ça reste prophétique. Il, l'Antichrist, fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et donc, on a dans l'Apocalypse, chapitre 19, les choses qui concernent l'Antichrist, l'arrivée de Jésus et son bataille et la destruction de l'Antichrist. C'est la dernière période de cette année. Donc, cette dernière période de cette année se trouve dans donc, la période. La destruction de l'Antichrist, c'est un chapitre 19 de l'Apocalypse, mais le chapitre 6 à 19 de l'Apocalypse couvre toutes ces sept années et aussi Matthieu 24 et Matthieu 25. Ça va tout le monde? Vous avez une question peut-être? Un commentaire? Avant d'avancer? Quoi qu'on dise dans toutes ces choses, il faut que ça s'accorde avec ça. Donc, Nebuchadnezzar était quelque temps avant les Mèdes et les Perses. Donc, c'est les Mèdes qui ont conquis Nebuchadnezzar et les Perses ont conquis les Mèdes. Donc, c'est devenu les Mèdes et les Perses. Et c'est en 445, donc dans cette période-là, que commence la prophétie de Daniel chapitre 9. Alors Daniel lui-même habite à cette époque-là. Hein? Parce qu'il dit Daniel, il dit Nebuchadnezzar, c'est toi la tête d'or. Donc Daniel, il habite ici, etc. Mais il fait cette prophétie. Donc Daniel a vécu, je ne sais pas, 80 ans ou quelque chose. Et donc il parle pendant cette période-là. OK? Ça va tout le monde? Et donc il dit, voilà, 445. Jusqu'au deuxième retour de Christ. Donc nous, on utilise le vocabulaire deuxième retour de Christ parce que eux, ils pensaient une seule arrivée de Christ pour établir le royaume. Mais non, la première fois, il était tué. Il a porté tous nos péchés, mais il va revenir. Et on continue à faire le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. OK? Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur Matthieu chapitre 24. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc Matthieu 24, vous connaissez bien, c'est une prophétie concernant la tribulation. Ça donne plein d'informations de combien il y aura de difficultés, de persécutions, de troubles. Il y aura des famines, il y a plein de choses, les trahisons et il y a et plein de sectes et de faux prophètes et tout ça. Matthieu 24, donc, résume et termine avec donc les sept années-là. Pour vous rappeler, donc, on a des fois dans le Nouveau Testament et dans Daniel, on a le nombre de jours, 1260 jours, plus 1260 jours. C'est une période de 360 jours. C'est un calendrier juif et non pas romain. Nous, on a un calendrier de combien de jours?
365.
D'accord. Et eux, ils avaient un calendrier lunaire. Donc, le 365, c'est solaire, et 360, c'est lunaire. Donc, les Juifs calculent sur 360 jours, donc c'est pour cela 1260 jours plus 1260 jours. Il y a 7 années de tribulation, 360 jours, 1260 jours mauvaises, ou mauvais, et puis 1260 jours extrêmement mauvais. Et c'est pendant la deuxième partie de ces temps, le dernier 1260 jours, que arrive donc cette partie-là. Bon, je l'ai fermé la page. Quand l'Antichrist va cesser le sacrifice et l'offrande journalière, il va se présenter dans le temple de Dieu, prétendre être Dieu, et il va commencer à faire tamponner tout le monde avec son marque de la bête, n'est-ce pas, pour qu'on ne peut plus vendre ni acheter. Et c'est aussi à partir de ce moment-là, quand il se proclame Dieu, que Dieu envoie les deux prophètes qui agiront donc un peu comme Moïse avait agi devant Pharaon pour la période de 1260 jours. Ils n'ont pas 7 années de ministère, ils ont 3 ans et demi de ministère. Ça va là? Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais j'ai donné un petit... Question ou observation? OK. Donc, nous allons dans Matthieu chapitre 25. À bien comprendre que Matthieu 25 suit Matthieu 24. c'est un sujet, 2 chapitres sur le même sujet. Alors, on va lire versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, merci, et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, à comprendre brièvement, c'est que, voilà, on est dans une noce ancienne. C'est pas comme le mariage où on était l'autre jour, dans un mariage moderne, n'est-ce pas? Donc, selon les coutumes, l'époux arrive avec son épouse pour faire la fête. OK? C'est les noces, c'est la fête qui va arriver. Donc, Jésus était à cette fête à Cana, où il manqua de boisson, n'est-ce pas? Donc, je vous pose la première question. L'époux arrive avec qui? Il est un époux. Il n'est pas un fiancé. L'époux arrive avec qui? Il ne le dit pas dans le texte. Mais l'époux arrive avec qui? Il arrive avec son épouse. Il ne va pas se marier avec 5 femmes. Ça, c'est la polygamie. C'est pas que les 10 vierges, D'accord, elles sont vierges. Elles veulent être mariées. Mais il n'y a aucun qui va se marier avec l'époux. Il vient de se marier et il est arrivé pour faire la fête. Les gens qui sont là entrent pour faire la fête et les gens qui ne sont pas là n'entrent pas pour faire la fête. Donc vous êtes d'accord avec moi, il n'est pas polygame. Il ne va pas se marier avec les cinq vierges qui se sont entrées dans les noces. Ben, certainement, c'est la noce, il va se marier avec les cinq femmes. Non. Ben, il va se marier avec une d'elles.
Il est déjà marié.
Il est déjà marié. Donc, si l'époux est Jésus, qui est l'épouse?
L'Église.
Pardon?
L'Église.
C'est l'Église. OK? Donc, Matthieu 24 et Matthieu 25, ils entendent, ils ne disent pas. Donc, attention, hein, je n'ai pas dit que c'est dit.
C'est sous-entendu.
Et ça sous-entend que l'Église n'est pas en question. Parce qu'elle est partie avec l'époux.
Quand Jésus est venu.
Quand Jésus est venu. Donc, ce texte suppose un enlèvement avant la tribulation. Les dix vierges représentent donc quoi? Si ce n'est pas les chrétiens, c'est quoi? Les dix vierges représentent les juifs. Parce que tout ce texte concerne les juifs, le peuple d'Israël, la nation qui est en train de rejeter Jésus, qui est dans la prophétie, qui va être tabassée par l'Antéchrist, etc. Eh bien, c'est vrai qu'il y aura des convertis païens à travers la tribulation, mais globalité, c'est la 70e année de la prophétie que Dieu termine tout son travail avec le peuple d'Israël et entre dans le royaume. Donc, les dix vierges ne représentent aucun chrétien dans le sens de nous. Plutôt, ça représente les juifs de la tribulation. Cinq sont sauvés. Et cinq sont perdus. Cinq sont sauvés comment? Par la foi en Jésus-Christ. Par la crédulité. Par l'incrédulité, il y a cinq qui n'étaient pas sauvés. Et par la foi, cinq étaient sauvés. Dans Jean chapitre 1, verset 9, il dit que le Fils illumine toute personne qui entre dans le monde. Donc il y a l'huile, il y a la lumière pour tout le monde. Mais tout le monde ne va pas être sauvé. Pourquoi? Parce que tout le monde ne croit pas. Et c'est vrai que seulement les Juifs qui ont confiance en Jésus-Christ peuvent être sauvés. Comment peut-on être sauvé? Comment être prêt pour l'arrivée de Jésus-Christ à la fin de la tribulation? Croire en Jésus-Christ. Le message ne change pas. Le point de cette parabole, le message même, soyez prêts.
Comme quand Jésus va venir nous chercher.
Ça ne nous concerne pas.
Non, et nos Bibles seront toujours dans le monde.
Oui, physiquement, c'est là.
Et donc, ces textes-là seront compris par les gens qui vivront la tribulation.
Oui. Bon, l'idée d'être prêt, comme on a prêché sur la question en Colossiens, je pense que c'était chapitre 1 ou 2, il y a quelques semaines. Donc, Dieu veut qu'on soit toujours prêt. Nous devons être prêts. Mais nous, c'est que si Jésus arrive pour l'enlèvement et nous ne sommes pas prêts, eh bien, on aura honte devant lui. À ce moment-là, on aura honte. On ne va pas perdre notre salut. Mais, ah, désolé, Seigneur, ah, je suis en train de voler la banque. C'est pas bien. Et donc, il veut qu'on soit prêts. Mais ici, le sujet, c'est la tribulation, c'est les Juifs, etc. On peut l'appliquer en second thème, si vous voulez, aux chrétiens. Mais ça ne nous concerne pas directement.
Il y aura le Saint-Esprit encore sur la terre à ce moment-là? Je ne crois pas.
L'Église sera enlevée.
Oui.
Okay? Et le mal sera déclenché. Okay? Mais tu as 144 000 juifs. Donc le texte est très spécifique, 12 000 de chaque tribu, donc ils n'avaient pas besoin de dire ça s'ils voulaient parler des païens évangélisants, qui ont évidemment le Saint-Esprit sur eux. Okay? Donc dans le sens chrétien, je ne sais pas. Mais au moins, le Saint-Esprit existe, il est Dieu. La Trinité, donc, existe toujours. Et quand les deux prophètes sont là, donc, ils sont remplis du Saint-Esprit aussi. Donc, ils font tous les miracles et tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas dans le sens de l'Église que nous connaissons. Quand je parle avec ce matin, j'ai dit que voilà, on est sauvé, on est attaché à Jésus-Christ dans les lieux célestes, par le Saint-Esprit qui est en nous, etc. Là, on revient dans le système juif. Donc, à l'époque, le Saint-Esprit venait sur les personnes qui avaient un travail à faire, donc 144 000 évangélistes et deux prophètes témoins. Okay? En dehors de ça, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va fonctionner dans cette période, cette année, okay? Puisque c'est revenu un peu sur le système juif. Okay?
Ça risque d'être comme le principe de l'Ancien Testament.
Oui, globalement. Et beaucoup. OK. Autre chose à commenter? OK, on va voir le prochain. Le maître qui va en voyage et qui confie du travail à ses serviteurs. Donc, on va simplement le lire. Mais le message, c'est que les vrais croyants s'occupent des affaires de leur maître. Sachant qu'on parle des Juifs de l'époque de la tribulation, mais c'est toujours la même chose. Un vrai croyant va s'occuper des choses de son maître et par application aussi, c'est les chrétiens. Versets 12 à 30, Matthieu 25. Est-ce que j'ai lu jusqu'à la fin? Oui. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un troisième, un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, et quand on dit longtemps après, et c'est longtemps après, hein, c'est 2000 ans, c'est 2010 ans, c'est 2100 ans, on ne sait pas combien de temps après que le maître est parti, eh bien, qu'il va revenir, ok? Mais il est parti longtemps. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confiera beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite. Il dit, « Seigneur, je savais que tu es homme dur qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et au retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur utile, jette-le dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et les grincements de dents. » C'est une parabole. Il y a 3 serviteurs. Il y a un serviteur qui ira en enfer. OK? Qui est sauvé et qui n'est pas sauvé? Ben les deux. premiers sont sauvés et le dernier n'est pas sauvé. Mais est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il va en enfer parce qu'il n'a pas été bon serviteur? Pourquoi il est allé en enfer? Il n'avait pas confiance dans le maître. Il n'aimait pas le maître. Il n'était pas croyant. Il avait peur. OK? Donc, les trois juifs serviteurs-là, deux avaient confiance dans leur maître. Ils ont bien travaillé pour leur maître parce qu'ils sont des vrais croyants. Et le troisième n'est pas un vrai croyant. Il est un genre religieux, juif, je ne sais pas comment. Mais il avait peur de Dieu. Et bien, quand Dieu est arrivé, ben, il avait peur. Et voilà, ça montre qu'il n'était pas croyant. Et donc, il va dans les ténèbres de dehors où il y a des grincements dedans et les pleurs. Ça vous choque? C'est conforme à l'évangile que tu prêches. On ne perd pas le salut parce qu'on n'a pas fait quelque chose. On n'est pas sauvé parce qu'on n'a pas cru en Jésus.
Donc ça concerne encore les Juifs.
Ça concerne toujours les Juifs. Mais si tu dis que c'est des chrétiens, eh bien, ça donne l'idée qu'on va perdre le salut si on ne fait pas un bon travail. Ben voilà, on clarifie les choses. Oui, mais c'est, tu vois, c'est une fois qu'on comprend que l'époux est déjà marié, il n'y a plus de questions. C'est les dames qui disent vierges sont soit croyants, soit non croyants. Et le Saint-Esprit, c'est vrai que quand on croit en Jésus-Christ, on a une abondance du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans le monde. Donc elles avaient connaissance de Dieu. Comme quand on parle avec les gens, on évangélise, on explique l'évangile et les gens ne croient pas. Elles ont ou la lumière, mais pas suffisamment. Parce qu'ils n'ont pas laissé entrer dans leur cœur pour avoir la lumière éternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, c'est pour un peu clarifier. Matthieu 24 et 25, c'est le sujet du 24, c'est la tribulation. Donc, on a vu la première partie, c'est veillez, soyez prêts. Mais le message, c'est en particulier pour les Juifs de l'époque de la tribulation. Parce qu'ils savent bien que Jésus va revenir à la fin des 1260 jours. Ils savent bien, mais s'ils sont trop, des choses trop lourdes sur eux, ils risquent à perdre de vue l'objectif, ok? Je ne veux pas avoir de salut, mais leur objectif de vie. Et donc, il dit, veillez. Et le second message, c'est, vous êtes enfants de Dieu. Donc, il parle aux Juifs, mais il parle en deuxième lieu quand même, à nous. Eh bien, soyez occupés des affaires de votre maître. C'est normal. On est serviteur, on le fait. C'est normal. Et puis, on a le jugement des nations dans la prochaine partie. Donc, je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles. Moi, j'ai les marqué comme sous-titre jugement des nations. Là, on a en vue comment les nations, pendant la tribulation, se sont occupées des Juifs. Est-ce que c'est une nation qui a été 100% pour Hitler et les antichrists et qui a persécuté les Juifs? Ou est-ce que c'est une nation qui avait une réticence contre l'Antichrist, même s'il était la grande puissance mondiale, mais faisait leur mieux pour protéger les Juifs. Comment chaque nation s'occupait des frères, donc des compatriotes, de Jésus. C'est ça, cette dernière. Lorsque le Fils de l'homme, qui c'est? Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, mais quand est-ce qu'il va venir dans sa gloire? C'est Apocalypse chapitre 19. Ben c'est quand il frappe là, pouf, il arrive, pouf, dans sa gloire, sur son cheval blanc, ok, son cheval blanc. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiérait sur le trône de sa gloire. Où? Quel trône? Où il va s'asseoir? Non? Ben c'est
ça. Pendant le
millénium. C'est le millénium. C'est le trône de Jésus quand il va régner sur la terre pendant les 1000 ans. Il va être siégé à Jérusalem. Donc on voit qu'il y a confusion. Hein, parce que attendre à Jérusalem. Est-ce que c'est à ce moment-là le royaume? Non. Mais c'est quand donc le royaume? Ben, Dieu sait, mais vous ne, c'est pas votre affaire. Okay? Donc c'est vrai qu'il y a confusion parce que c'est le même endroit, et c'est toujours Sion, et c'est toujours le mont de Dieu, c'est toujours Jérusalem. Ça revient à la même chose. Mais ici, asseoir sur le trône de sa gloire, c'est pour le millénium. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Donc il ne dit pas tous les gens. Tous les individus. Ce sont une représentation nationale. OK? Il séparait les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec ses boucles. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucles à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc c'est un peu plus clair là. Le siège de Jésus sur sa trône pour le royaume. Le royaume qui est préparé depuis la fondation du monde. Donc quand Dieu a créé le monde, il avait toujours l'objectif lui-même de régner sur la planète. C'est le royaume. Tous les gens qui disent, oui, mais s'il y a Dieu, eh bien, il n'aura pas la souffrance, il n'y aura pas la misère, la pauvreté, la maladie et toutes ces choses-là. Eh bien, quelque part, non, le royaume répond à cette chose-là. Parce que dans le royaume, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de pauvreté, etc. Parce que Dieu va régner sur sa planète. Mais nous, on n'est pas encore là. Nous, on est sous le péché. La corruption, la malédiction. Et c'est dans cette planète mortelle que nous vivons actuellement. Mais ce que Dieu a préparé depuis la fondation du monde, c'est le royaume. C'est le royaume futur. On n'est pas là-dedans. Okay? Donc les protestants croyaient, comme les catholiques, qu'ils avaient été déjà dans le royaume pendant que le pape avait exercé son autorité sur la terre pendant 1000 ans. Et les protestants croyaient qu'à la réforme, ils étaient dans la tribulation parce qu'ils ont été beaucoup tabassés par les catholiques. OK? Ça, c'était leur optique il y a 500 ans. Donc, il a séparé. Il dit, venez, vous qui êtes bénis du Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, tous les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans le contexte de deux chapitres, il parle des Juifs. Il parle des Juifs persécutés pendant la tribulation. Ça n'empêche pas que les gens qui ont bien traité les Juifs au Deuxième Guerre mondiale, Dieu connaît ces choses-là. Et à travers l'histoire, les Juifs ont été beaucoup tabassés, mais on a une optique ici, c'est deux chapitres, c'est une histoire sur la tribulation, la période, le 70e, entre guillemets, semaine de Daniel chapitre 9. Okay? C'est là qu'on a en vue ici.
Au début du millénium, il y aura tant de Juifs qui auront survécu, mais également il y aura des représentants de toutes les nations qui auront survécu. Et c'est là où, devant son trône, il y aura tous ces représentants des nations, ceux qui auront été mis à mort pendant la guerre d'Armageddon.
Ben, c'est une parabole, donc je ne peux pas aller dans trop de détails parce que je ne sais pas à quel point, mais il y a toutes les nations qui sont représentées, mais...
Ou ce sont les nations croyantes, tous les gens qui ont cru en Dieu.
Alors, les représentants sont les croyants, d'accord? Mais les représentants sont des pays, ok? Donc, il y a des représentants de l'Amérique. Mais l'Amérique tombera sur un côté ou l'autre, sur le droit, sur le gauche. Donc, les bénéfices nationaux dans le millénaire seront sur la base de ce jugement. Donc, certaines nations auront plus de bénédictions et d'autres auront moins. Parce que leur rapport avec les Juifs pendant la tribulation était soit bien, soit mauvaise. Okay? C'est un peu complexe. Nous, on pense, voilà, l'Antichrist, il est le Dieu du monde et tout le monde, amen, amen, etc. Mais quand on lit les prophéties, on voit bien qu'il y a des gens qui sont réfractaires, il y a des pays qui ne sont pas contents d'être sous sa puissance, qui sont même à la fin, tous les pays qui vont venir pour tabasser l'Antichrist. Donc, c'est pas comme on imagine qu'il est dictateur à 100%, mais il est dictateur, il veut être à 100%, comme le pape toujours voulait être à 100%. D'ailleurs, il est antichrist aussi. Et donc, il fait son effort pour imposer sur tous les pays que tout le monde dans tous les pays ont cette marque, mais il ne réussirait peut-être pas jusqu'au bout. Donc, c'est pour cela qu'il y a un peu de possibilité que des gens se réfugient dans tel ou tel endroit. Parce que pendant qu'il fait ses efforts de forcer les pays d'accepter son autorité, ça donne du temps pour les gens à survivre. Ok. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-moi, vous de moi, maudite, allez dans le feu éternel. » Donc là, tu vois, j'ai hésité de répondre, Sophie. Parce que là, il dit carrément que, à ce moment-là, il y a une distinction pour ceux qui ont été non sauvés, qui n'étaient pas sauvés. Mm-hmm. Okay? Parce que toujours, on doit accepter la vérité de base. Un croyant ne va jamais en enfer parce que les péchés sont tous pardonnés. Donc ici, si on voit quelques nations en enfer, c'est que ces nations étaient à 100% avec l'Antichrist, ils ont assassiné, massacré les Juifs et tout ça.
Oui, mais c'est tous ces gens-là, donc ce sont les survivants après Armageddon.
Oui, oui.
Donc il va...
Mais par la suite, il n'y a que des croyants qui vont entrer...
Qui vont entrer dans le millénaire.
Voilà. Ouais. Voilà.
Donc ce jugement donne l'impression que c'est pendant, juste à la fin de la guerre, mais avant qu'il
repasse. Oui, mais quand on lit, donc il y a 1260 jours, 1260 jours, et puis il y a des fois qu'on parle de quelques chiffres de plus, ouais. Quelques jours de plus... Parce que justement, il y a un temps de restauration et tout ça, donc il y a des jugements et tout ça. Et je ne sais pas, je ne suis pas parfait dans tout ce que je connais, hein, mais ça sent que ça va prendre un petit peu de temps pour tout régler. D'accord? Mais ces gens-là, c'est-à-dire ces nations-là, seront maudites. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas fait boire. Et j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait de ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, on voit la fin de cette chose et l'établissement, hein, la fin des pieds, l'établissement des royaumes, donc la montagne qui va remplir toute la terre, et plus tard devenir un royaume éternel. En Marc chapitre 13, on voit le rassemblement des élus. Donc, Matthieu chapitre 4, c'est la même chose que Marc chapitre 13, mais on a cette chose, le rassemblement des élus. Pourquoi Dieu va rassembler les élus? Donc, j'ai parlé des élus, donc c'est le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu va les rassembler? Pour la même raison qu'il a rassemblé la famille de Noé dans l'arche. Parce qu'il va faire un bouleversement de la planète. On a chanté tout à l'heure. Quand les montagnes s'éloigneraient, seront détruites, les montagnes vont tomber, les vallées vont être remplies, etc. Eh bien, si vous êtes sur la terre à ce moment-là, quel bouleversement, ça sera très inconfortable. Donc, Dieu va les rassembler pour les protéger. Et puis, dans Romains chapitre 6, verset 19, donc c'est dans le passage Romains chapitre 6, verset 16 à 22, mais c'est le verset 19, on parle de la restauration de toutes choses. La création tout entière attend la restauration de toutes choses. Donc, on a en vue cette chose-là quand on parle du rassemblement des élus pour le royaume futur, c'est pour que les choses soient restaurées. Et donc, vis-à-vis du plan qu'on a sur le tableau là, après ces choses, donc après les 7 années de la tribulation, après Apocalypse chapitre 19, il y a Apocalypse chapitre 20. Et Apocalypse chapitre 20, ça parle du royaume de 1000 ans. Alors, il y a plein de chrétiens qui disent, non, ça ne peut pas être 1000 ans. Mais le texte dit plusieurs fois, je pense que c'est 7 fois, 1000 ans. Donc, ce n'est pas à nous de dire que Dieu se trompe dans ses chiffres. C'est un royaume du Messie, c'est 1000 ans sur la terre, paix, prospérité, sécurité, justice, santé, longévité de vie, tout ce que nous pourrons jamais imaginer si Dieu régnait sur la terre, eh bien, ça, c'est cette époque-là. OK? Par la suite du royaume, il y aura un moment de rébellion. Parce que avant le royaume, Jésus a fait enchaîner le diable pour ne pas embêter les gens. Mais à la fin, il le relâche pour un petit temps pour que les gens montrent le couleur qu'ils sont soit avec Jésus, soit avec le diable. Et il y a une grande foule de monde qui vont mettre le lot avec le diable pour essayer de bouleverser le Christ de son trône. Et donc, bien sûr, Dieu va vaincre, et ce sera suivi donc par le jugement des condamnés devant la grande trône blanc. Et tous ceux qui se trouvent devant ce jugement sont condamnés. Donc les gens étaient déjà morts et dans la souffrance, mais maintenant ils sont ressuscités tous ensemble et jugés, condamnés et mis dans le lac de feu pour les peines éternelles. Attends, je termine. Et après donc cette chose, ou en même temps, Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux dans lesquels habite que la justice. Parce que c'est l'état éternel. OK? Donc là, on voit Daniel chapitre 2, depuis la pierre qui frappera, entre guillemets, bientôt les derniers vestiges de Rome, les 10 orteils qui sont faits de fer et d'argile. Et toute cette plan de société humaine mortelle va disparaître, mais la pierre va devenir une montagne qui va remplir toute la terre, donc c'est le royaume du Christ, et à la fin, le royaume même sera transporté dans l'éternité. OK? Oui, ta question.
À la fin du millénium, des mille ans,
oui?
Quand Satan est délivré,
délié.
Il va emmener avec lui beaucoup d'hommes qui vont le suivre et qui vont se tourner et faire la guerre contre Jésus qui était le roi de la terre. Donc, est-ce qu'ils vont tous mourir?
Je pense qu'il dit que Jésus va les tous tuer.
Ils vont être ressuscités
pour passer le temps en enfer, oui.
Voilà, c'est quand ils sont devant le trône. Je veux dire, le jugement dernier, ce sont que des âmes, que des gens qui sont morts. Qui sont...
Non. Le jugement dernier, c'est le jour de la résurrection des méchants.
Oui,
ils seront pas simplement les âmes, ce seront les âmes réunies avec le corps qui sera ressuscité et entièrement la personne sera confiée dans les peines éternelles, dans le lac de feu et les ténèbres du dehors, dans leur corps ressuscité, mais
déjà
mortel.
Déjà mort une fois,
oui. Et ces gens-là aussi mourront une fois. Parce qu'il y a chacun de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Oui, tout le monde a la vie éternelle, seulement la vie éternelle.
Non, tout le monde a une vie perpétuelle,
oui, une vie
mais ce n'est pas vie éternelle.
Oui, oui,
parce que vie éternelle, c'est avec Dieu, et vie perpétuelle, c'est loin, éloigné de Dieu. Et c'est complexe. C'est pour ça les cours de théologie. Ouais, c'est une souffrance éternelle.
C'est la mort éternelle.
Oui, c'est la mort éternelle.
La mort éternelle.
La mort éternelle, oui. C'est une mort perpétuelle. Mais c'est un genre de vie, mais c'est une vie sans Dieu. D'autres questions ou observations? La prochaine fois, on va voir d'autres versets, mais dispersés. Là, j'ai focalisé parce que je trouve que c'est important. J'ai focalisé sur les deux grands textes là, mais après, on va voir des petites parties. Et s'il faut, je prendrai une autre fois quand Tim ne peut pas venir pour faire une conférence pour terminer, s'il faut. OK? Voilà. Si vous n'avez pas de questions.
Le mois prochain, il vient pas?
Non. Donc, on fait encore une conférence prophétique le mois prochain.